Alors, on va revenir un peu sur tout ce que tu as dit, c'était très intéressant. D'abord, sur l'aspect comique de la pièce, le metteur en scène avait bien dit dans l'interview que c'était un spectacle bête. Vous êtes d'accord avec cette idée que c'est vraiment un spectacle bête, Nicolas, je sens
que... Ah oui, moi je trouve que c'est un spectacle super débile, mais contrairement à Maëlys, en fait j'ai vraiment eu le même avis que Maëlys en regardant la pièce. Pendant la pièce, j'ai pensé à peu près les mêmes choses. Mais mon impression générale est plus favorable que celle de Maëlys parce que j'ai vraiment passé un très bon moment et tous ces trucs bêtes, l'humour pipi caca ça va bien 5 minutes mais
il y avait trop de scatophilie.
Ça m'a plu de faire pendant une demi-heure de voir des choses vraiment vraiment super débiles comme ça pour me détendre finalement. Et en effet, si le metteur en scène celui qui a écrit finalement tous ces textes, a le parti pris de faire quelque chose de bête et de sans prétention, c'était même plus réussi que ce qu'on pouvait imaginer parce que c'est servi par des acteurs qui sont très bons, par une mise en scène qui est vraiment, quand je dis mise en scène, vraiment au niveau technique, qui était presque impeccable, hein, je veux dire, c'est ce papier toilette ex machina qui descend du plafond, c'est parfait, quoi. C'est le moment où j'ai le plus ri dans la pièce parce que finalement, toutes les choses techniques, que ce soit le jeu des acteurs ou les objets, c'était vraiment réglé au cordeau.
D'accord, c'était impeccable de ce point de vue-là. Alors, en voyant la pièce, je me suis demandé si c'était justement si bête que ça, parce que, alors oui, il y avait tout l'humour scatophile, des gags un peu farcesques, comme disait Maëlys. En même temps, il y a aussi tout un humour quand même qui est fondé sur le cliché, sur le running gag, sur le second degré. C'est peut-être un peu plus subtil de ce point de vue-là. Mathilde, qu'est-ce que t'en as pensé justement de l'humour de la pièce ? Déjà, est-ce que ça t'a fait rire ? Et est-ce que t'es pas d'accord avec cette idée qu'il y a peut-être aussi deux degrés d'humour dans cette pièce comique ?
Tu étais à côté de moi pendant la pièce, donc tu sais que ça m'a fait énormément rire.
Oui, mais les auditeurs n'étaient pas à côté de toi dans la pièce, Mathilde.
Quand sais-tu ?
Après, si nos auditeurs étaient à moins de 100 mètres du théâtre Cantor, ils ont probablement entendu Clément.
Exactement. Non, alors moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et je voulais justement rebondir sur cette idée que... Est-ce que c'était vraiment une pièce bête ? Alors moi, j'aurais tendance à dire pas tant que ça. Parce que finalement, j'ai trouvé peut-être... Contrairement à ce à quoi je m'attendais, surtout dans les 5 premières minutes et ce qu'on m'avait dit, je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait énormément de contenu, on va dire, au-delà de cette recherche du rire pour le rire et ce côté farcesque que je pense qu'ils assument tout à fait. Et finalement, j'ai été très surprise de voir qu'il y avait effectivement énormément de choses d'une grande profondeur, je trouve, finalement, ce jeu avec les codes hollywoodiens et justement avec nos attentes. Maëlys disait, on ne s'attendait pas à ce que ça finisse comme ça, on ne s'attendait pas à ça, on aurait voulu ça. Moi, je trouve ça très drôle, ce jeu qu'il y a eu constamment avec les attentes du spectateur. Alors voilà, moi, énormément de choses. Peut-être que je surinterprète et que ça ferait rire les gens. Mais
moi, justement, par rapport aux attentes du spectateur, un truc qui m'a interloqué un peu dans cette pièce qui contrastait avec le côté débile qui avait l'air beaucoup plus, on va dire, symbolique et sur quoi on pourrait réfléchir, c'est à la fin de toutes ces petites scénettes qu'on voyait pendant ce temps-là en Arizona, à chaque fois, tous les acteurs se retournaient vers un endroit et criaient « Ah !»
Oui.
Tu sais, genre,
c'est la fin du monde. De voilà. Certains dessins animés, par exemple.
Voilà, c'est ça, mais finalement, à chaque fois, au début, on se dit « Bon, voilà, c'est l'apocalypse, tout ça. » Et ça arrive plusieurs fois, et on a vraiment l'impression qu'il y a un symbole derrière tout ça qu'il faudrait peut-être analyser, décrypter. Ce que j'ai pas réussi à faire et ce que j'ai pas vraiment essayé de faire non plus, mais ça contraste un peu avec le côté débile.
Ça m'a donné l'impression qu'il y avait beaucoup plus à comprendre que ce qu'on voit au premier abord, et voilà.
Alors justement, l'absurdité est assez présente dans la pièce, il y a une grande partie de l'humour de la pièce est fondée dessus. On a des scènes qui s'enchaînent très rapidement, mais Maëlys le disait, avec pendant ce temps dans un studio hollywoodien, pendant ce temps en Arizona, qui sont des intermèdes brefs, qui n'apportent rien spécialement à l'intrigue, on est assez d'accord là-dessus. Il y a aussi une profusion des personnages, ils sont 5 acteurs, ils ont 5 personnages principaux, mais aussi une foule d'autres. Et on a l'impression que tout ça est un peu gratuit, que ça n'a pas vraiment d'utilité autre que... Ils le font parce qu'ils peuvent le faire et qu'ils nous montrent qu'ils peuvent le faire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette gratuité ? Vous trouvez que ça a du sens quand même ou...
Alors moi, ce que je voulais souligner, on n'a pas trop eu le temps d'en parler là pour l'instant, c'était, vous voyez ces micros qui étaient disposés de part et d'autre de la scène et qui permettaient aux acteurs qui n'étaient pas en scène de faire à la fois des bruitages et des fonds sonores, montrer un peu en quoi parfois la musique peut vraiment créer une ambiance, en particulier dans nos imaginaires un peu hollywoodiens, et j'ai trouvé ça vraiment brillant parce que c'était à la fois une très bonne idée et puis c'était très bien fait, faut le dire aussi, finalement il y avait des bons chanteurs quand même. Et des bons bruiteurs.
D'accord, donc ça a apporté quelque chose dans cette espèce de recréation d'un univers américain stéréotypé.
Oui, enfin ça a surtout apporté quelque chose à l'humour, parce que moi j'aime bien les bruitages.
Et toi, Mélisse ?
Moi, pour revenir sur le côté absurde et sur l'enchaînement de pièces qui n'ont pas grand-chose... Enfin,
avec l'impression de zapping un peu.
Voilà, ouais. Qui n'ont pas grand-chose à voir. Moi, je dis que c'est très bien qu'une pièce soit nourrie et plein de références, et voilà, et mobilise vraiment plein de choses du fond commun culturel du cinéma américain. Mais après, qu'est-ce qu'elle en fait après, vous voyez ?
Mais alors, justement, le fait d'avoir toutes ces petites scénettes qui s'enchaînent, qui sont zappées, qui sont stéréotypées, ça renvoie en fait à l'idée de la télé-réalité, qui est l'histoire dans l'histoire. À un moment, on a une scénette où on voit présentation des personnages de cette télé-réalité que le président veut mettre en place, et on se rend compte que c'est exactement les personnages principaux de la pièce, c'est-à-dire le président, la journaliste, le héros, le scientifique, tout ça. Et donc, du coup, c'est peut-être, si on réfléchit à ça, à l'utilisation des stéréotypes hollywoodiens, c'est peut-être aussi une critique, alors bon, là, pareil, on surinterprète probablement, hein, mais une critique de cette télé-réalité qui essaie de garder seulement les codes dans le fond artistique américain, garder seulement les codes et, on va dire, la bêtise du téléspectateur pour gagner de l'argent.
Tout fait sens. Alors, un truc qui faisait sens aussi ou pas, vous allez me dire, c'est en scène, le sens du décor. Alors, je sais que Mélis a un coup de gueule à piquer contre le décor.
Non, c'est pas un coup de gueule, mais c'est juste que je pense que ça aurait pu être un peu plus soigné. On avait le petit bordel des acteurs qui étaient derrière, en arrière-fond. Les rideaux blancs n'étaient pas bien tendus, alors on projetait une image. C'était un peu toute cette image qui faisait qu'on était à tel endroit ou à tel endroit. Elle était de traviole, le rideau était plié, il n'était pas droit. Ouais. C'est une pièce sans prétention, certes, mais il y a des petits détails quand même. On aimerait qu'il soit soigné.
Moi, je pense que ça participe d'une vraie intention. Le fait de nous montrer les ressorts, nous montrer les grosses ficelles derrière tout ça, c'est comme ça que
voilà,
je l'ai compris.
Moi, le fait d'avoir ces rideaux là au milieu... un peu mal mis, un peu à l'arrache, parce que plusieurs fois dans la pièce, il y a le personnage qui est sur scène pendant que les quatre autres sont en train de se changer, et puis il essaie de meubler la conversation en expliquant aux spectateurs que oui, enfin, on n'est que cinq, alors faut laisser à mes potes le temps de se changer. Bon, ça faisait un peu, ça sortait, ça brisait le quatrième mur, mais donc du coup, ça m'a pas dérangé, comme dit Mathilde, de voir les rouages. Bon, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est bon, là, c'est un peu mon point de vue de spectateur, un peu en dehors de la pièce. Quand on est arrivé, on nous a dit de nous placer plus vers le centre des places. Donc, clairement, c'était pour mieux voir cette scène centrale à l'intérieur des rideaux. Mais je trouve ça un peu dommage parce que quand on a un théâtre, on utilise la forme du théâtre et on fait en sorte que tous les spectateurs puissent voir. Je veux dire, là, rien que par ce choix de mise en scène, ça empêchait d'avoir plus que tant de personnes parmi les spectateurs. Bon, moi, c'est quand je suis arrivé, ça m'a un peu perturbé. Bon, après, le spectacle a commencé, c'était très bien tout ça. Mais bon, je pense que c'est un peu ça mon problème avec cette mise en scène. Mais le fait de voir les rouages, c'est...
D'accord, parce que j'objecterais simplement que certes, on est un espace scénique utilisé assez réduit, mais finalement, tout l'espace scénique est utilisé puisqu'il est aussi occupé par les coulisses.
Sûr.
Alors, on va en reparler justement, parce que, bon, au début, on nous a vendu un spectacle bête. Finalement, j'ai trouvé qu'il y a quand même pas mal de méta-théâtre dedans. Alors, voilà, on voit les coulisses, on voit les changements de décor, on voit les changements de tenue, on mate des acteurs en sous-vêtements. et puis, même dans...
Ça a marqué certaines personnes plus que d'autres, n'est-ce pas, Marie ?
N'est-ce pas ? Non, et puis même à l'intérieur de la diégèse, si on utilise des mots très sérieux, on a quand même très souvent des références métathéâtrales. Par exemple, d'emblée, on a ce personnage du second clochard, Bill, dont, dès le début de la pièce, on prend complètement congé et on le dit. On nous annonce clairement qu'il est secondaire, qu'on le reverra pas. Il y a un moment, les personnages s'étonnent d'avoir changé de lieu et s'étonnent d'avoir vécu une ellipse. Donc,
oui, exactement. Ça, c'était très bien.
Scènes, voilà, la journaliste qui précise dans un monologue pour permettre aux autres acteurs de se changer que elle est en train de s'éterniser un peu sur son monologue parce que voilà, ils ne sont que cinq, comme le disait Nicolas. Voilà, comme si en scène n'était pas capable de nous proposer un spectacle totalement bête, peut-être. qu'est-ce que vous avez pensé de ça, de cet aspect métathéâtral dans une pièce quand même très farcesque ? Est-ce que c'était intéressant ? Est-ce que c'était bien fait ?
Moi, j'ai vu beaucoup d'humilité, et c'est quelque chose, j'arrête pas de le dire dans cette émission, qui me touche beaucoup dans le théâtre, c'est cette humilité-là, alors même qu'il y a un message très profond derrière. Et une vraie réflexion sur ce que c'est que le théâtre, et ce que c'est finalement que le spectacle, le divertissement. Je sens que Nicolas se moque de moi.
Mais moi, j'ai plutôt bien aimé ces petits aspects-là, mais qui étaient, à mon avis, un peu trop rares, en fait.
Oui, alors moi, je te rejoins complètement, c'est... ça rejoint un peu ce
c'était,
que t'as dit
et pour
pendant
moi, c'était pas
ta chronique.
Du... Ouais, c'était pas forcément une réflexion sur le théâtre, c'était juste des choses drôles en fait qui surprenaient, des bonnes idées et c'était, ça avait pas une visée un peu métaphysique.
D'accord. Pour voilà, faire rire, pas pour faire réfléchir.
Voilà,
c'est
mon avis.
Ça. Et alors moi, voilà, c'est ça, c'est ces petits passages de méta-théâtre. Bah, s'ils avaient voulu vraiment faire quelque chose à propos de ça, ils auraient dû le faire plus,
ouais,
parce que c'était vraiment saupoudré. Et au contraire, s'ils voulaient pas faire ça, bah moi c'est pas les moments qui m'ont fait le plus rire parce que je sentais que c'était pas assez abouti.
D'accord. Merci Nicolas. Alors on va conclure. La fin du monde en 50 minutes, Apocalypse Now, ça vous a plu, Maëlys?
Oui et non, parce que, alors moi, contrairement à ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, le fait que qu'on ait une espèce de fin du monde différée avec en Arizona, ils se prennent une comète. Enfin, moi, j'ai pris ça comme une comète qui est arrivée du ciel, mais je sais pas, bon, c'était peut-être une maladie, on sait pas. Le fait que ce soit un peu différé partout, enfin, ça m'a dérangé parce que j'avais l'impression qu'on avait une espèce de temporalité complètement éclatée. Et j'avais déjà du mal à suivre l'histoire. Alors, si on commençait à éclater comme ça, le dénouement, ouais, ça m'a un peu gênée. Ouais,
moralité, faites plus simple. Mathilde ?
Faites plus simple, voilà.
Ah, moi, vous l'aurez compris, je défendrai cette pièce contre Maëlys jusqu'à la mort.
Et Nicolas ?
Eh bien, moi, je suis assez content de faire la synthèse entre Mathilde et Maëlys et dire que, sur le coup, il y a des choses qui m'ont un peu déçu. En fait, voilà, c'est ça. C'est un peu mon sentiment en sortant de cette pièce, c'est que j'ai été déçu parce que j'ai passé un excellent moment et j'ai l'impression que j'aurais pu en passer un encore meilleur.
Nicolas s'élève au-dessus du débat.
Merci à tous les trois.